On va verser 10. Et avant de lire cela, j'aimerais juste vous inviter. Vous allez voir que nous avons donné une feuille ici à la porte qui contient tous les versets qu'on va lire ce matin. Sinon, si vous avez une Bible, on va la prendre, on va faire cette déclaration de la foi. Amen. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et j'aime sa parole. Parce que je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Et je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil. Mais à partir d'aujourd'hui, je vais être changé et transformé dans la gloire de Dieu à l'image de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? 1 Pierre chapitre 3, verset 10, dit ceci. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie, je pense que c'est nous tous, n'est-ce pas? Moi, je veux aimer la vie. Je ne veux pas détester la vie. Il y en a beaucoup qui détestent la vie. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas découvert les principes que nous allons découvrir ce matin. Mais si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, alors donc on sait qu'on peut avoir, qu'est-ce que la Bible dit qu'on peut avoir, et si on voit qu'on peut avoir des jours heureux ici sur la terre, c'est pas juste une promesse pour le ciel. Laisse-moi vous dire, ça va être facile d'avoir une belle vie au ciel et d'être heureux au ciel. Ça serait vraiment pas compliqué. Mais ici, sur la terre, ça prend quelque chose pour avoir une vie heureuse. Ça prend la foi. Amen? Mais il dit ici qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Là, je voulais juste lire un couple de ces versets pour donner encore on pourrait dire l'arrière-plan de qu'est-ce qu'on va parler ici. Là, on voit qu'on peut avoir une vie qu'on va aimer, on peut voir des jours heureux ici sur la terre, mais en même temps, on voit que parce que nous sommes heureux, parce que nous vivons une vie heureuse ici sur la terre, que ça va provoquer quelque chose dans notre entourage. Les gens qui nous entourent vont, ça va piquer la curiosité chez eux, ils vont commencer à poser des questions. Pourquoi est-ce que vous avez tant d'espérance? Pourquoi est-ce que vous êtes si heureux dans la vie? Et ça va nous donner une occasion de leur donner la réponse, n'est-ce pas? Et c'est ça qu'on veut. On veut une vie efficace. On veut avoir une vie chrétienne qui est contagieuse, n'est-ce pas? Hein? On sait qu'on ne veut pas, des fois, surtout en automne, les gens, ils ont peur de se donner la main, etc., parce qu'ils ne veulent pas attraper quelque chose. Mais laisse-moi vous dire, la chose dont on parle aujourd'hui, c'est une chose, il faut l'attraper, et il faut le partager avec tout le monde, il faut devenir un chrétien contagieux, amen? Et il faut avoir une joie contagieuse. Il faut que les gens voient, il y a quelque chose de différent chez vous. Je pense que c'est pas normal que le monde ne soit pas capable de distinguer entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. Un enfant du diable, c'est quelqu'un qui connaît pas le Seigneur Jésus. Laisse-moi vous dire. Des fois, oui, ils peuvent être heureux, hein, à la surface. Moi, je sais, il y a des fois des personnes, laisse-moi juste vous dire ceci. Reculez un peu, hein. Je vais réembobiner la cassette. Un petit peu. Sauf qu'aujourd'hui, on n'utilise plus les cassettes. Donc, on va juste peser, aller sur l'autre chapitre du DVD ou quelque chose, OK? Mais vous savez, moi, j'ai eu un problème quand j'étais jeune. Parce que moi, j'ai grandi dans une église à partir de l'âge de 9 ans. En fait, j'étais toujours dans une église dès ma naissance. Mais pour les premiers 9 ans de ma vie, on était dans une église qui enseignait même pas, qui prêchait même pas la nouvelle naissance. Mais à partir de l'âge de 9 ans, presque 10 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur. On a commencé à fréquenter une très bonne église, une église formidable. Et j'étais fidèle dans cette église pendant 25 ans du temps. Et jusqu'au moment où l'église n'existait plus. Et laisse-moi vous dire que j'ai aimé Dieu, j'avais un cœur pour Dieu. Mais j'avais quand même un problème. Parce qu'il y avait quelque chose dans mon jeune cœur qui me disait que si je vis à 100% pour Dieu, que je vais manquer le fun. Je vais pas avoir autant de plaisir que j'aurais pu avoir si je vivrais pas pour Dieu. Mais je sais qu'il y a personne ici qui a eu ces genres de pensées, hein? Mais j'étais convaincu de cela que, ah, j'aime Dieu, je veux vivre pour Dieu, mais je veux avoir du fun. OK? Et j'avais un problème. Parce que, laisse-moi vous dire que, si quelqu'un essaie de te dire que le péché, c'est pas de fun, ils ont tort. Le péché, c'est vraiment de fun. Si le péché n'était pas le fun, personne ne le ferait, hein? Qu'est-ce que le pasteur prêche aujourd'hui, hein? Qu'est-ce que tu as appris à l'église? Le pasteur nous a enseigné que le péché, c'est vraiment le fun, hein? Ah, ben, oui, c'est pas la fin de l'histoire. Moi, j'ai toujours pensé ça. Une chose que j'aimerais faire dans ma vie, avant de mourir, j'aimerais faire du parachutisme. J'aimerais sauter dans l'avion et faire du parachutisme. C'est une chose que j'ai toujours voulu faire. Mais moi, je pensais que ça serait vraiment de fun de sauter dans l'avion sans une parachute. Ça serait de fun, n'est-ce pas? Parce que, hey, je vole et c'est cool, je peux voir pour des kilomètres et des centaines de kilomètres, et je suis comme un oiseau. Ça serait vraiment une rush d'adrénaline, ça serait de fun, ça serait cool, n'est-ce pas? Ça serait de fun, je suis sûr. Sauf que c'est la fin de l'histoire qui est un peu moins drôle. N'est-ce pas? Ça se termine pas bien, cette histoire. Mais c'est la même chose avec le péché. Le péché, laisse-moi vous dire, c'est le fun. Sauf que c'est la fin de l'histoire qui est moins fun. Parce que quand on saute sans la parachute de la parole de Dieu, des principes de Dieu, de la loi de l'Éternel qui est là pour nous protéger, si on saute dans la vie pour faire des choses, pour nous rendre heureux, sans le faire dans le contexte de la sainteté, oui, c'est du fun. On peut avoir plein de rushs d'adrénaline. On peut avoir plein de buzz et d'effets spéciaux dans notre corps physique. On peut ressentir des choses émotionnellement. Et on peut dire, ouh, je suis vraiment en train de vivre. Et des fois, laisse-moi vous dire, ça peut durer quelques minutes et c'est du fun. Hein, mon épouse a un cousin qui jouait quelque chose qui était vraiment à l'occasion. Il aimait prendre un pistolet avec juste une balle là-dedans et tourner les cylindres et tirer. Et pour lui, c'était vraiment de fun parce qu'il aimait voir la réaction de ses amis au bar. C'était vraiment de fun, sauf la journée où la balle est entrée dans son cerveau. C'était plus de fun à ce moment-là. Laisse-moi vous dire, il y a des choses que le monde pense, oh, c'est vraiment de fun. C'est de fun d'avoir les relations sexuelles avec n'importe qui, n'importe quand. On est libre. Sauf que c'est moins de fun quand tu attrapes les maladies transmises sexuellement, n'est-ce pas? C'est moins de fun quand tu brises la relation. Oh, c'est de fun peut-être d'avoir une aventure. Les personnes qui sont mariées déjà, c'est de fun d'avoir une aventure avec une nouvelle personne. Et laisse-moi vous dire, il y a toutes sortes d'émotions, on pourrait dire positives qu'une personne peut vivre, mais c'est moins de fun quand le mariage est brisé, quand les enfants sont perdus, quand tout ce que vous avez, en fait, la Bible dit, celui qui commet l'adultère est fou. Une traduction dit, il est stupide. Pourquoi? Parce qu'on perd tout ce que Dieu veut nous donner. Donc, c'est ça. Je veux juste dire cela parce qu'il y a des fois les personnes qui peuvent penser, ah oui, oui, mais oui, mais c'est de fun. On peut avoir une vie heureuse en vivant pour le diable. C'est vraiment plus de fun de faire ça que vivre pour Dieu. Mais c'est le contraire. Et moi, mon problème quand j'étais jeune, c'est que j'avais de la misère à comprendre la nature de Dieu. J'ai pas compris que Dieu est un Dieu qui m'aime et que j'avais trop une idée religieuse de Jésus. Parce que des fois, le pasteur dirait, mais fais pas les choses que tu ferais pas si Jésus était avec toi. Et ça, c'est une bonne chose, hein. Il y a certains films qu'on regarderait pas si Jésus était à côté de nous. Vous êtes d'accord? Il y a certaines activités qu'on pratiquerait pas si Jésus était avec nous. Vous êtes d'accord? Sauf que même avec ça, il faut faire attention. Parce que moi, j'avais même de la difficulté à voir Jésus jouer au football. Parce que moi, mon image de Jésus, c'était un homme habillé avec une robe et les sandales. Et qui allait doucement prier pour les gens et bénir tout le monde, et prier le Père, et prier pour les malades, et c'est tout ce qu'il faisait. Mais là, j'ai appris des choses à travers les années. C'est Dieu qui a créé cette vie. C'est Dieu qui a créé toutes choses, en fait, pour qu'on puisse en jouir, n'est-ce pas? Et moi, j'ai maintenant la conviction que je crois que moi, je peux aller faire du kayak parce que moi, j'aime ça. Hein? Moi, j'aime le plein air, j'aime la pêche, etc. Maintenant, je peux aller faire du kayak ou aller à la pêche. Je ne l'ai pas fait depuis trop longtemps, par exemple. Mais j'ai même pas eu la chance de le faire pendant les vacances. Mais je vais le faire. Mais laisse-moi vous dire, avec 5 enfants, on a plein d'autres activités. Hein? Mais et ça, c'est de fun aussi. Mais laisse-moi vous dire que maintenant, je peux faire ces choses, ces activités de plein air avec Jésus. Avec la conscience que c'est pas une question que maintenant, je vais à l'église et je vais être religieux. Maintenant, je vais prier et faire mes trucs chrétiens. Et après, je vais fermer la porte à Jésus et je vais aller faire des loisirs et faire des choses que je ne devrais pas faire, me repentir et demander pardon et revenir à l'église. Ça, c'est comme ça que la plupart des chrétiens vont vivre leur vie. Ils vont aller à l'église, prier, louer, adorer, puis ils vont aller laisser Dieu à l'église, et ils vont faire toutes sortes de choses qu'ils ne devraient pas faire, et puis ils vont demander pardon, ils vont se repentir et courir à l'église encore une fois. Confesser toutes les mauvaises choses qu'ils ont faites. Mais ce n'est pas la vie, ça. Ça, ce n'est pas la vie. Dieu veut qu'on ait une belle vie ici sur la terre, qu'on voit des jours heureux ici sur la terre. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire les loisirs, fais les loisirs avec Jésus. Joue au golf avec Jésus. Joue au tennis avec Jésus. Va à la pêche avec Jésus. Amen. Si vous êtes marié, je vais dire quelque chose qui va vous choquer. Fais l'amour avec Jésus. Ça, c'est juste pour vous réveiller. Hein? Mais savez-vous, c'est vrai qu'est-ce que je dis. Les chrétiennes, je crois, devraient avoir les meilleures vies sur la terre. C'est Dieu qui a créé le mariage, c'est Dieu qui a créé le sexe, c'est Dieu qui a créé le plein air, c'est Dieu qui a créé les rivières, c'est Dieu qui a créé toutes ces choses pour qu'on puisse en jouir, n'est-ce pas? Et si j'aurais su cela quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, je pense que j'aurais pu m'épargner toutes sortes de troubles dans ma vie chrétienne. Parce que j'avais des choses, pas des mauvaises choses que je voulais faire, mais j'étais comme pas, j'avais cette mensonge dans ma tête qui disait que moi, mais ça, c'est pas trop spirituel. C'est faux, ça. Je pense que des fois, la chose la plus spirituelle qu'on peut faire, c'est d'aller avoir du fun, n'est-ce pas? Faire des choses saines. Tout le monde dit saines. Saintes aussi. Les choses saintes aussi. Pas des choses qui sont pas saintes ni saines. Mais c'est important. Donc, je n'ai pas planifié de partager tout cela, mais c'est bon quand même, n'est-ce pas? Donc, c'est bon de savoir que Dieu veut faire partie de chaque partie de notre vie. Christ est ma vie. Et quand on a cette révélation que c'est Christ qui est ma vie, et je fais les choses pour sa gloire, tout ce que je fais, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Et maintenant, je comprends que je peux aller à la pêche pour la gloire de Dieu. Amen. Je peux faire des choses pour la gloire de Dieu, pas juste lire ma Bible et prier, mais ça, c'est important aussi. Amen. Je suis pas en train de dire que vous allez serrer votre Bible et arrêter de prier et arrêter de venir à l'église. Il y a des gens qui sont allés dans l'autre extrême qui disent, mais tu sais, mon église, ma chapelle, c'est le bois, c'est la forêt, c'est le lac, tu sais. Combien de vous avez entendu cela? Le terrain de golf, c'est mon église. C'est là où j'ai la communion avec Dieu. Bon, c'est bon d'avoir la communion avec Dieu sur le terrain de golf. Mais tu as besoin aussi de tes frères, de tes sœurs et d'être dans une église locale où tu peux être nourri et grandir et servir pour la gloire de Dieu. Amen. Bon, on parle de tout cela et on voit que si on commence à avoir cette attitude que je peux tout faire avec Dieu, pour Dieu, et je peux avoir une vie heureuse, on va voir qu'il y a plusieurs bienfaits d'une vie heureuse que je voulais juste souligner aujourd'hui. Les bienfaits d'une vie heureuse. Combien de vous savez que ça va vous faire du bien d'être heureux? J'aime ces versets. Regarde dans tes notes. Psaume 29, verset 11. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et qu'est-ce qu'il fait? Le rend heureux. Tu sais, Dieu n'est pas celui qui te rend malheureux. Et c'est ça que j'avais comme conviction quand j'étais adolescent. Je pensais que si je sers vraiment Dieu à 100%, que je vais être malheureux, je vais manquer de quoi? Quel mensonge! Parce que laisse-moi te dire, heureusement, j'avais juste 16 ans, presque 17 ans, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit et quand j'ai eu une transformation totale et j'ai donné ma vie à 110% à Jésus. Je suis retourné à l'école secondaire en feu pour Dieu, comme on dit en Jesus Freak, mais quelqu'un en feu pour Dieu, ardent. Et laisse-moi te dire, j'ai vécu des aventures incroyables avec Dieu et pour Dieu. Je ne peux pas comparer les deux. J'avais du fun dans le péché, mais il y avait toujours un salaire à payer après. Et ça coûte cher. Mais j'avais 10 000 fois plus de fun dans le Seigneur. Et le seul salaire que j'avais après, c'est encore plus de bénédiction, encore plus de joie. Le fait de savoir que Dieu est en train de sourire sur l'activité. Amen. Que c'est merveilleux. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Le cœur content est un festin perpétuel. Dieu veut qu'on ait un festin perpétuel. Est-ce que je suis en train de dire que toutes les circonstances de la vie vont toujours être parfaites, que la vie sera toujours rose dans le naturel? Non, j'ai pas dit ça. Mais peu importe qu'est-ce qui se passe autour de nous, comme j'ai dit la semaine passée, on n'est pas des thermomètres, nous sommes des thermostats. Je l'ai bien dit cette fois-ci, hein. On peut, au lieu de se laisser changer par notre environnement, on peut changer notre environnement. Et on peut choisir d'être content peu importe qu'est-ce qui se passe. Et si on choisit d'être content peu importe qu'est-ce qui se passe, on va avoir un festin perpétuel. Quel genre de festin? Trois choses qui vont se passer dans votre vie. Une vie heureuse nous garde en bonne santé, premièrement. Vous savez que plus vous êtes heureux, plus vous serez en santé. Moins vous aurez des maux de tête, moins vous aurez des mal à l'estomac, mal au cœur et tout cela. Et les médecins ont prouvé qu'il y a la plupart des maladies sont psychosomatiques. Pas toutes. Il y en a qui sont vraiment des choses physiques, biologiques. Ça, on est conscient de tout cela. Mais je parle de la réalité que souvent, souvent, les problèmes physiques que nous expérimentons, souvent, c'est le résultat de la stress dans notre vie, n'est-ce pas? Ou c'est le stress? Est-ce que c'est le ou la stress? Le stress. Sauf une fois quelqu'un a dit non, c'est la stress parce que les femmes sont plus stressées que les hommes. Non, hein? Non, mais... c'est pas vrai, c'est pas vrai. Juste pour vous réveiller encore. Mais c'est vrai que plus nous sommes heureux, regarde cela. C'est biblique, qu'est-ce que je dis. Proverbe 18:14 dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Proverbe 17:22, un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Et encore, je pense que j'ai déjà raconté l'histoire de monsieur, que le médecin a dit, désolé monsieur, mais on a trouvé un cancer dans votre corps. Et donc, qu'est-ce que le monsieur a fait? Il est allé louer les films, les comédies. En fait, je ne sais pas si vous avez entendu parler des Trois Stooges. Vous savez c'est quoi les Trois Stooges? Donc, il a loué un pile des films des Trois Stooges. Et je pense que pendant un mois ou deux, je ne m'en souviens plus, mais pendant longtemps, il est rentré chez lui, il a fermé la porte, bien entendu, il mangeait, il dormait, tout cela, mais presque la seule autre chose qu'il faisait, il regardait les films des Trois Stooges et il riait encore. Et après, je sais pas, un mois, deux mois, trois mois, je m'en souviens plus. Il est allé voir le médecin encore et il n'y avait plus une trace de cancer dans son corps. N'est-ce pas merveilleux? Mais ça, l'homme n'était pas un chrétien même. Mais on voit qu'il a mis en pratique, il a appliqué un principe biblique dans sa vie, un cœur joyeux est un bon remède. Et c'est en fait, ils ont découvert que quand on rit, il y a certains produits chimiques qui sont relâchés, il y a des hormones aussi qui sont relâchées dans notre système et ces choses ont un effet positif sur notre santé. Donc plus on est heureux, plus on va être en santé dans la vie. Amen. Alléluia. C'est bon. Donc une autre chose, une vie heureuse nous apporte la prospérité aussi. Dieu veut qu'on soit, en fait, 3 Jean 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, ou c'est l'inverse, que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Donc, on voit que Dieu veut qu'on soit en bonne santé, il veut qu'on prospère à tous égards. Il veut qu'on ait une prospérité mentale, émotionnelle, financièrement. Dans tous les domaines, Dieu veut qu'on soit prospère. Regardons ceci, Psaume 128. Est-ce que vous êtes en train de recevoir quelque chose ce matin? Cantique des degrés. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Tu m'en dis, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils que la paix ou le shalom, rien de brisé, rien qui manque, soit sur Israël. Donc on voit que la prospérité est liée aussi à notre bonheur. Et ça, c'est juste dans le naturel, c'est vrai aussi. Tu sais qu'ils ont fait les études et ils ont étudié les personnalités, les tempéraments des millionnaires. Et une chose qu'ils ont découvert, c'est qu'il y a une chose que la plupart, pas toutes, mais la plupart des millionnaires, ils ont entré en commun. Premièrement, ils ont une forte croyance en les autres. Ils ont une attitude très positive par rapport aux autres. Ils ont une tendance à croire le meilleur des autres personnes. Vous savez, une personne qui est toujours négative, qui soupçonne toujours le mal, c'est pas la personne qui va avoir la promotion au travail. Pourquoi? Parce qu'il soupçonne le mal chez son patron aussi, n'est-ce pas? Mais quelqu'un qui croit le meilleur, il va croire le meilleur de son patron. Et ça, c'est très... Ça a bien d'allure pour le patron. Il veut avancer les employés qui sont loyaux, les employés qui vont pas parler dans son dos, mais les employés qui vont être heureux. Vous savez c'est quoi? Aller à l'épicerie et la personne à la caisse, est-ce que vous voulez que la personne soit marabout et puis toujours de mauvaise humeur, ou est-ce que vous aimeriez mieux avoir quelqu'un dire « Hey, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? » avec un sourire. C'est beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas? On va avoir une tendance à vouloir retourner, par exemple, à une place de commerce, un restaurant, où tout le monde est jovial, tout le monde est heureux. Pas une place où tu rentres dans la porte, c'est comme, encore du monde. Ben, juste attends une minute, s'il te plaît, hein. Non, on veut être bien accueilli, on veut avoir un sourire, on veut avoir le bonheur. Parce que ça, c'est une chose encore qui est contagieuse. Donc, c'est sûr que votre bonheur est lié pas juste à votre santé, mais à votre prospérité aussi. Plus vous êtes heureux, plus vous allez prospérer. Et plus vous êtes mécontent, plus vous vous plaignez, plus vous êtes marabout, plus vous serez dans la détresse et vous allez inviter la pauvreté à faire partie de votre vie. 1 Timothée 6:6 dit, le véritable attachement à Dieu est en effet une grande source de richesse. Si il va de pair avec le contentement d'esprit. La Bible nous donne les avertissements contre l'amour de l'argent et tout cela. Il y a des personnes qui pensent que la piété c'est une source de gain. Mais la parole de Dieu dit non, c'est pas pour ça qu'on suit le Seigneur. On suit pas le Seigneur pour s'enrichir. On suit le Seigneur parce qu'on l'aime et parce qu'on est content de le connaître. Mais si vous suivez le Seigneur de tout votre cœur, comme Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, n'est-ce pas? Donc on voit que si on est content, si on aime Dieu, on aime la vie, Dieu n'est pas contre l'idée que tu possèdes les choses, aussi longtemps que tu n'es pas possédé par les choses. Amen? Et c'est ça la chose qu'on veut souligner aujourd'hui, c'est qu'une vie heureuse apporte la prospérité. Alléluia. Donc, troisième chose, troisième bienfait d'une vie heureuse, c'est qu'une vie heureuse nous rend attirants. Attirants. Laisse-moi vous dire, on devient comme les aimants. Les gens sont attirés à nous quand nous sommes de bonne humeur. Combien de vous voulez aller passer du temps avec quelqu'un qui se plaint constamment? Est-ce que ça vous donne le goût d'aller manger avec quelqu'un que vous savez? Ou de téléphoner à quelqu'un que vous savez que dès que la personne répond au téléphone, c'est juste une question de secondes, la personne va commencer à se plaindre. Qu'est-ce que vous avez le goût de faire? De jamais appeler. Hein? Donc peut-être on devrait sonder notre cœur et si personne nous appelle, non. Change de sujet. Wow. Ils l'ont traîné dehors de la ville, ils l'ont lapidé. Non, il y a peut-être d'autres raisons aussi, mais si le soulier te va. Non, écoute, c'est vrai qu'on veut être avec les personnes qui sont contentes, n'est-ce pas? On aime ça être avec les personnes qui sont positives malgré les problèmes, malgré les défis de la vie. Et souvent, on voit les personnes qui ont des pires circonstances que nous, qui sont plus heureux que nous. Et ça, c'est des personnes attirantes, n'est-ce pas? Des personnes qui ont moins de nous, qui sont plus heureux. Alléluia! Juste un peu de nourriture pour penser ce matin. Regardons ceci. Ça, c'est le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu pour Israël. Son peuple choisi, c'est son plan aussi pour l'Église. On va voir deux versets là-dessus. Jérémie 33, 9 dit, « Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire. Parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai, elles seront étonnées et émues de tout le bonheur et de toute la prospérité que je leur accorderai. » Est-ce que tu vois le plan de Dieu pour la nation d'Israël et pour la ville de Jérusalem? Dieu voulait que le peuple dans la terre promise soit tellement heureux et plein de joie, la joie de vivre, tellement prospère que toutes les nations de la terre seraient émues. Oh, regarde ça! Et si c'était le cas pour le peuple juif, qui avait une alliance, une bonne alliance, mais nous avons une meilleure alliance qui se base sur les meilleures promesses, à combien plus fort raison ne devrions-nous pas avoir ce même effet dans notre monde? Les gens devraient être émus de voir la bonté de Dieu à l'œuvre dans notre vie. Ils devraient être émus de voir le bonheur que nous sommes en train de vivre. Je n'ai pas dit qu'on va toujours avoir les journées faciles, la vie facile, que nous n'aurons jamais des défis, des problèmes. Dans ce monde, Jésus l'a dit, vous aurez la tribulation, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. L'apôtre Paul, alors si on veut voir quelqu'un qui avait de troubles, c'est l'apôtre Paul. Il avait pas mal de troubles, mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas grave. La seule chose qui compte pour moi, c'est d'accomplir mon ministère avec joie. Avec joie. Pas en se plaignant, mais avec joie. Alléluia. C'est pourquoi même quand il était en prison, battu à cause d'avoir prêché l'Évangile, qu'est-ce qu'il faisait vers l'heure de minuit? Paul et Silas, ils élevaient la voix et ils chantaient les louanges de Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu veut que vous soyez une lumière. Il veut que vous soyez le sel de la terre. On veut, quand on va faire les épluchettes de blé d'Inde, ça va être une bonne occasion pour nous aussi d'avoir du fun, d'avoir un bon temps, de se réjouir dans la présence du Seigneur pour que les gens puissent voir que nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Moi, je vais prendre juste quelques minutes ce matin pour parler de quelques principes. Deuxième page de vos notes. Est-ce que vous voulez me donner une autre quinzaine de minutes? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté dans un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que ça vous intéresse? Dieu veut qu'on soit en lumière, il veut qu'on soit le sel. Pour que ça soit le cas, il faut qu'on soit heureux. Pour qu'on soit heureux, on va voir quatre choses, quatre piliers, on pourrait dire, essentiels pour poser une fondation de bonheur dans notre vie. On ne va pas prendre longtemps là-dessus, mais je veux que vous preniez le temps, cet après-midi, cette semaine, de méditer ces versets. Mais la première chose qu'on voit, parce qu'on sait que si on est heureux, on va être en bonne santé, on va prospérer, on va devenir attirant pour le monde, n'est-ce pas? Mais comment est-ce qu'on peut arriver là. Qu'est-ce qu'on doit faire pour poser la fondation d'une vie heureuse? Numéro un, mettez en pratique la parole de Dieu. Bâtissez votre vie sur la parole de Dieu. Deutéronome 6, 24 dit, « L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique, tout le monde dit mettre en pratique, toutes ses lois et de craindre l'Éternel notre Dieu afin que nous fussions, quoi? » Dis ça plus fort. Encore une fois. Wouh! C'est ça que Dieu veut pour son peuple, n'est-ce pas? Il veut qu'on soit toujours heureux, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être toujours heureux? Il faut mettre la loi de Dieu, la parole de Dieu en pratique. Amen. Si, Jésus a dit ceci, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. C'est pas qu'est-ce que tu sais qui te rend heureux, c'est qu'est-ce que tu fais. Moi, je peux savoir que pour être heureux et pour être en bonne santé, qu'il faut manger bien, il faut faire les exercices. Mais si je fais jamais les exercices, je mange toujours la cochonnerie, ouais, mais je sais que je devrais pas le faire. Je sais que qu'est-ce que ça prendrait pour être vraiment en forme. Ils disent que c'est vraiment une bonne chose pour la santé de pouvoir avoir un peu d'activité cardio au moins 2 ou 3 fois par semaine, une 20aine de minutes, et ça peut faire toute une différence. Tu peux changer le métabolisme de ton corps et tu serais capable d'être plus en forme, plus en santé, juste avec un peu d'exercice. Mais si on le sait, mais on ne le fait pas, ça ne change rien. Mais si on le sait et on le fait, ça change tout. Amen? Alléluia. Et il répondit, « Heureux plutôt, Luc 11, 28, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Jacques 1, 25 dit, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera quoi? Heureux dans son quoi? Dans son activité. Il sera heureux dans son activité. Quelle activité? Toute activité. Oui, il sera heureux dans la prière, oui, oui. Il sera heureux quand il est à l'église en train de prier et chanter, oui, absolument. Mais il sera aussi heureux sur le terrain de golf. Il sera heureux quand il est au restaurant en train de prendre un café avec quelqu'un et de jaser. Il sera heureux dans toute son activité s'il met la parole de Dieu en pratique. Si on fait les choses comme Dieu nous a demandé de les faire. C'est là où on a besoin de prendre une décision de qualité, que cette Bible est inspirée de Dieu, que cette parole est la parole de Dieu. C'est Dieu qui me parle. Et même avant d'ouvrir la Bible pour voir qu'est-ce que Dieu dit, je prends une décision en avance que je vais me soumettre à sa parole. Seigneur, tout ce que tu dis, je vais le faire. Je me mets sous ta parole, Seigneur. Et c'est pourquoi quand j'ouvre la Bible dit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » OK, c'est ça que je vais faire. J'ai pas le goût, mais je vais le faire quand même. C'est pourquoi quand la Bible dit, « Pardonnez-vous réciproquement. » Mais j'ai pas vraiment pas le goût de pardonner aujourd'hui, Seigneur. Donne-moi au moins un couple de semaines pour parler avec 2, 4, 5, 6 autres personnes qui vont téléphoner à leurs amis pour que toute cette nouvelle soit répandue dans la ville, pour que tout le monde sache qu'est-ce que la personne a fait. Et ensuite, je vais pardonner. Non. On se soumet à la parole et là, vous serez heureux dans votre activité. Amen. Quand on ouvre la Bible dit, honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Oh, mais là, peu importe qu'est-ce que la Bible dit, si c'est un commandement de Dieu qui s'applique à nous, on a besoin de se soumettre et mettre cela en pratique. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Amen. Alléluia. Donc, première chose, mettez en pratique la parole de Dieu. Deuxième chose, soyez intègre dans votre marche avec Dieu. Soyez intègre. Vous savez, c'est quoi l'intégrité? L'intégrité, c'est d'être la même personne n'importe où que vous soyez. De croire la même chose, peu importe les circonstances. Moi, je sais c'est quoi d'être un caméléon. Vous savez c'est quoi un caméléon? Un caméléon change de couleur dépendant de son environnement. Et j'étais vraiment bon à ça quand j'étais jeune. Parce que je dis, hein, l'âge de 9 ans, je commençais à aller à l'église, j'aimais Dieu, mais aussi je voulais avoir de fun. C'est pourquoi quand j'allais à l'école, il n'y a pas grand monde qui savait que j'étais chrétien. J'étais capable de faire partie du décor. Personne ne me voit comme chrétien, il me voit comme un de eux. Vous comprenez qu'est-ce que je suis en train de dire? Mais laisse-moi vous dire, je n'étais pas heureux dans mon activité, j'étais misérable, j'étais jamais, jamais content dans mon cœur. J'avais beaucoup de fun. Attention! J'avais beaucoup de fun et beaucoup de plaisir. Mais dans mon esprit, dans mon cœur, j'étais vide. Il y avait quelque chose qui disait, non, c'est pas ça, ta vie. Surtout parce que moi, je connaissais Jésus, je savais que Dieu avait plus pour moi. Donc, c'est pourquoi quand j'ai pris la décision, c'est fini, jamais plus un pied dans le monde, un pied dans l'église. Maintenant, c'est deux pieds dans le royaume de Dieu et on fonce, on y va, attache ta tuque, qu'on part bien raide, hein? On a besoin de prendre cette décision, d'être intègre. Heureux ceux qui sont, quoi? Intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent pas d'iniquité et qui marchent dans ses voies. C'est-à-dire que, à l'église, au travail, quand vous faites des loisirs, quand vous faites quoi que ce soit, vous croyez la même chose, vous faites la même chose, vous êtes la même personne, vous êtes une personne d'intégrité. Ça, c'est le bonheur. Parce que jouer une vie double, c'est compliqué. Et laisse-moi vous dire, expérience, je sais de quoi je parle. Et aussi, j'ai eu de l'expérience avec des centaines d'autres chrétiens qui ont joué cette vie double. Et c'est pas de fun. Le bonheur se trouve pas là. Le bonheur se trouve en étant intègre et vivant pleinement pour Dieu. Amen. Psaume 112, 1. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Heureux l'homme qui craint l'Éternel. Vous savez, la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu comme on a peur d'un serpent. La crainte de Dieu, c'est la révérence pour Dieu. J'ai de la révérence pour son esprit, j'ai de la révérence pour sa parole, j'ai de la révérence pour ses principes, j'ai de la révérence pour son peuple, je crains l'Éternel, et ça, c'est une source de bonheur pour nous. Si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel dans votre vie, je vous assure, vous pouvez avoir de fun de temps en temps, mais vous n'aurez pas une vie heureuse qui va durer. Amen. Alléluia. Proverbe 28, 14. On va le lire ensemble ici. Heureux l'homme qui est quoi? Dis encore. Encore une fois, très fort. Heureux l'homme qui est continuellement, pas juste le dimanche matin, le mercredi soir, ou 6h le matin pendant les dévotions, mais heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais. Je l'ai fait. À l'âge de 14-15 ans, j'ai pris une décision même. De dire, ça y est, je suis tanné d'essayer de vivre pour Dieu, je vais juste avoir le fun. Et j'ai pris une décision d'endurcir mon cœur, de ne plus... J'ai voulu plus entendre la voix de Dieu, je voulais plus ressentir sa présence dans ma vie, parce que à chaque fois que je faisais des choses que je ne devrais pas faire, j'avais la conviction du Saint-Esprit dans mon cœur, je ne voulais plus ressentir cela, donc j'ai essayé d'endurcir mon cœur. N'est-ce pas horrible? J'aime même pas parler de ça. Mais c'est ça que j'ai fait. Mais gloire à Dieu, ça n'a pas duré que un an ou 16 mois ou je ne sais pas combien de mois. Ma mère a prié pour moi. Mon pasteur a prié pour moi. Ma tante a prié pour moi. Et le Seigneur Jésus m'a délivré de ce mensonge. Et quand je suis revenu à Dieu, j'étais tellement en feu. Parce que, oh Seigneur, tu es tellement miséricordieux. Je t'ai donné un bon coup de pied dans les dents, mais tu m'as repris comme le fils prodigue. Tu as mis une robe sur moi, tu as mis tes souliers à mes pieds, tu m'as donné l'anneau, tu m'as donné l'autorité de vivre et d'agir comme un de tes enfants encore de nouveau. C'est pourquoi j'aime Jésus ce matin. Je l'aime de tout mon cœur parce qu'il est miséricordieux. Il est bon. Amen. Écoute pas les mensonges de l'ennemi. Numéro 3. Donner une priorité à les relations saines. Vous voulez être heureux dans la vie? Choisissez bien vos amis. Choisissez bien les personnes. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'on ne devrait pas avoir un contact avec les non-croyants. Au contraire, on a besoin de cela. Mais vous savez, il y a certaines personnes avec qui vous ne pouvez pas passer du temps sans tomber dans une piège. Est-ce que j'ai raison? Et si vous n'êtes pas ancré, inébranlable, vous devrez faire bien attention avec les personnes qui vous entourent. Et si on voit qu'est-ce qu'on a lu, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Ici, dans le verset, après numéro 3 dans vos notes, « Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. » N'est-ce pas bon? Qu'est-ce que Dieu donne? Il délivre les captifs et les rendent quoi? Heureux. C'est les rebelles seuls qui habitent dans les lieux arides. Dieu, quand on vient à lui, il ne nous donne pas juste la vie éternelle, mais il nous donne une famille, une église. Et là, on peut développer les liens, avoir les relations avec des personnes, faire des choses ensemble qui sont saines. Et ensemble, on peut passer du temps avec les non-croyants aussi. Moi, je suis pour ça. Je crois qu'on ne devrait pas perdre contact avec le monde. Jésus ne nous a pas enlevés du monde. Il nous a laissés ici pour être le sel et la lumière. Mais si vous n'êtes pas encore assez fort pour tenir bon, si vous allez agir comme un tel mon maître et vous laissez changer par votre environnement, vous n'êtes pas encore capable d'agir comme un tel mon stade et changer votre environnement, faites attention. Sinon, vous ne serez pas heureux dans la vie. Deutéronome 5, 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné afin que tes jours se prolongent et que tu sois quoi? Heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Là, on voit l'importance d'une relation saine avec ceux qui sont en autorité. Que ce soit les parents, que ce soit les leaders spirituels dans une église, on a besoin d'avoir une bonne relation saine avec nos leaders spirituels, avec ceux et celles qui sont en autorité, si on veut être heureux dans la vie. Les rebelles sont ceux qui vivent dans les places arides, n'est-ce pas? C'est ceux qui sont révoltés, c'est ceux qui ne veulent pas écouter l'autorité, qui vont finir dans le mal, ils vont être malheureux. Mais si on est soumis à Dieu, soumis à sa parole, soumis au leadership qui nous entoure, soumis aux personnes que Dieu a placées dans notre vie pour nous protéger, pour nous enseigner, pour nous instruire, là, c'est le bonheur. Moi, que je suis content d'avoir les leaders spirituels dans ma vie. Premièrement, j'ai mes parents et j'ai encore de l'honneur pour mes parents. J'ai encore beaucoup de respect pour mes parents. Je suis adulte, j'ai 5 enfants, mais j'écoute toujours le conseil de ma mère et mon père. Je demande souvent leur avis sur dans les situations. Dieu, ça me rend heureux. J'ai mon pasteur et j'ai les autres leaders spirituels qui sont au-dessus de moi dans la foi. Et je parle avec eux à chaque semaine. Et je suis en contact avec eux, j'ai une relation saine avec eux. Laisse-moi vous dire que les relations saines vont vous rendre heureux. Donc, choisissez bien vos amis, choisissez bien vos relations. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et numéro 4, pour terminer ici. On va mettre en pratique la parole. On va être intègre dans notre marche avec Dieu. On va donner une priorité à les relations saines. Il n'y a rien de plus important ici sur la terre que votre relation avec Dieu et vos relations avec les autres. Et numéro 4, saisissez la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu qui nous rend heureux. Et la sagesse de Dieu s'applique à tous les domaines de notre vie. Finances, émotion, sexualité, spiritualité, tout est touché par la sagesse de Dieu. Et si on vit avec sa sagesse, on va être heureux. Regardons le verset. C'est quoi le premier mot? Heureux l'homme qui a trouvé quoi? Alléluia! Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. C'est-à-dire qu'il faut chercher la sagesse pour trouver. Mais Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Frappez, la porte vous sera ouverte. Demandez, il vous sera donné. En fait, Jacques, chapitre 1, vous pouvez écrire cela. Je pense que c'est verset 4 ou 5. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il demande à Dieu, qu'il donne à chacun, librement, sans reproche, mais qu'il demande avec foi, sans douter. Il dit, et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure, le gain que procure la sagesse et l'intelligence de Dieu, est préférable à celui de l'argent. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Si quelqu'un vous donnait le choix entre la sagesse de Dieu et un chèque de 1 million, qu'est-ce que vous choisirez? Amen. Ça me fait penser à Salomon, n'est-ce pas? Dieu a dit, tu peux avoir tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux me demander? Et il n'a pas demandé la richesse, Il n'a pas demandé la destruction de ses ennemis. Il a demandé l'intelligence, la sagesse de Dieu. Et Dieu a dit, parce que tu as demandé ça, je vais te donner ça. Mais aussi, je vais te donner les richesses et toutes les autres choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. La sagesse de Dieu. Mais regardons, on veut vraiment dévorer ces versets parce que c'est tellement riche. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. La sagesse de Dieu vaut mieux que tous les objets de prix. Tous les hommes, tous les Mercedes, toutes les belles maisons, toutes les perles, les diamants, tout l'or, tout l'argent, toutes les choses qui existent sur la planète, la sagesse de Dieu a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite, dans la droite de quoi? La droite de sagesse. Et quoi? Une longue vie. Dans sa gauche, c'est quoi? La richesse et la gloire. Donc, vous voyez, Dieu n'est pas contre l'idée que son peuple soit prospère ou même riche. Mais Dieu est contre l'idée que son peuple soit donné aux idoles et qu'ils aiment l'argent. Amen? Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies, quoi? Agréables. J'aime ça. Et vous? Est-ce que vous voulez marcher dans les voies agréables? Et tous ces sentiers sont quoi? Paisibles. Elle est un arbre de vie pour tout le monde, non? Pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont quoi? Heureux. Si vous saisissez la sagesse, vous allez avoir une longue vie. Vous aurez aussi la richesse et la gloire. Vous allez marcher dans les voies paisibles. Si vous possédez la sagesse, vous serez heureux dans la vie. La sagesse de Dieu n'est pas comme la sagesse des hommes. La sagesse de Dieu est vraiment différente. La sagesse de Dieu dit, si tu veux monter plus haut, celui qui s'abaisse sera élevé. Celui qui s'élève sera abaissé. Ça, ce n'est pas la sagesse des hommes, c'est la sagesse de Dieu. Si vous voulez avoir plus, la Bible dit, donnez plus, donnez et il vous sera donné. Ça, ce n'est pas la sagesse du monde. La sagesse du monde, c'est épargner plus, épargner plus, épargner plus, couper plus et épargner plus. La sagesse de Dieu dit, soyez sage et donnez plus. C'est la sagesse de Dieu. Comprenez? Gloire à Dieu. Combien de vous, vous voulez être comme un arbre de vie, que vous voulez avoir une longue vie, la richesse et la gloire, marcher dans les voies paisibles, agréables, vous voulez être heureux, hallelujah. Donc, quatre choses, mettre la parole en pratique, soyez intègre, la même personne n'importe où, n'importe quand, dans votre marche avec Dieu, donnez une priorité à les relations saines et saisissez la sagesse de Dieu. On va prier ce matin si Jean-Charles peut venir. Je m'excuse, je pense que j'ai pris 19 minutes au lieu de 15 quand j'ai demandé. Mais c'était bon quand même, n'est-ce pas? Et vous m'aimez toujours. Et je vous aime aussi. Dans les semaines à venir, je pense qu'on, pour un couple de semaines de plus au moins, on va rester sur ce sujet de comment mener une vie heureuse. Et on va voir un peu plus à fond les choses spécifiques que Dieu dit dans sa parole. Les principes bibliques qui sont garantis de vous donner le succès et de vous rendre heureux. Et encore, n'oublions pas que notre but, la raison qu'on veut être heureux dans la vie, c'est pas juste parce que on veut le bonheur ici sur la terre. Ça, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on veut plus que toute autre chose, c'est que le nom de Jésus soit glorifié dans notre vie. Moi, je veux que le monde ait soif de Dieu. Et je sais que si je suis misérable, mon entourage ne va pas vouloir connaître le secret de mon malheur. Mais si je suis content, si je suis heureux, toujours, même quand je passe par les moments difficiles, comme j'ai dit la semaine passée, j'ai pas dit que c'est pas correct. Il n'y a pas des moments où on va pleurer et laisser les larmes couler. Ça, c'est normal. La Bible dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Quand je dis qu'il faut toujours être content, avoir du bonheur, avoir la joie, je ne suis pas en train de dire qu'on n'a jamais, jamais un moment où on va avoir une émotion de tristesse. Mais on n'est pas affligé comme ceux qui n'ont pas d'espérance, la Bible dit. Quelqu'un de notre parenté décède, c'est normal, on va avoir un peu de deuil pour la personne. C'est normal et c'est bon et c'est sain. Mais la bonne nouvelle, c'est que notre deuil peut être changé en allégresse. Vous comprenez? Et ça, c'est normal. Les gens, ils veulent voir cela aussi, qu'on est capable de pleurer, mais avec espérance. On ne pleure pas comme parce que la vie est horrible et parce qu'il n'y a pas d'espérance et on veut juste quitter la planète Terre. Non, on pleure parce qu'on est touché. On est ému. On voit les personnes qui souffrent et on est ému pour eux et c'est normal. Mais on est quand même content, on a de la joie. Et on a une espérance. Et on est dans le bonheur. Amen. Alléluia. On est des vraies personnes authentiques. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Donc, Père, au nom de Jésus, je te remercie ce matin pour ta présence, pour ton esprit. Merci, Seigneur, que nous sommes un peuple heureux, un peuple joyeux. Et que, Seigneur, dans ce monde, nous aurons les tribulations, mais on prend courage parce que tu as vaincu le monde. Et avec tous les yeux fermés, chaque dimanche matin, j'aime donner une occasion à ceux et celles qui viennent de donner leur vie à Jésus. Si vous êtes ici ce matin, et vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus-Christ, vous n'êtes pas sûr et certain d'avoir saisi la vie éternelle. Si vous trouverez la mort aujourd'hui, et vous êtes honnête avec vous-même, vous n'avez pas encore l'assurance que vous allez passer l'éternité avec Dieu au ciel. Si c'est le cas pour vous aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc aujourd'hui, si vous voulez donner votre vie à Jésus, j'aimerais juste que vous levez la main, on va prier pour vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a une personne, deux personnes. Il y a quelqu'un d'autre ce matin qui a besoin de donner sa vie à Jésus. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père qui est au ciel. Mais si tu me renies devant les hommes, je vais te renier devant mon Père. C'est quand même sérieux. Dieu t'étend sa main, il veut te rejoindre, il veut te recevoir dans ses bras grandement ouverts. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui dirait, oui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus? J'ai un deuxième appel ce matin. Si vous êtes ici ce matin, vous savez que vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais vous n'avez jamais reçu, qu'est-ce que la Bible appelle le baptême du Saint-Esprit? Comme c'est passé en Actes 2, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Ça, c'est une chose importante. Je crois que c'est tellement important. Jésus dit que vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est une chose dont nous avons besoin pour être puissants et efficaces comme témoins ici, sur la terre. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de cela? Je lève la main, il y a une personne. Deux personnes encore. Je vais demander à ceux qui ont levé la main juste à venir ici en avant. Et on a des préposés à l'autel ce matin qui sont formés pour prier avec vous aussi. Mais viens ici, on va faire une prière ensemble. On a plusieurs hommes ce matin. Et j'aimerais juste demander à tout le monde de prier cette prière. Si c'est la première fois que vous donnez votre vie à Jésus, surtout, vous, je veux que vous priez cette prière de tout votre cœur. Que ça soit sincère, que ça vienne de votre cœur. On va faire cette prière ensemble et le Seigneur va exaucer. Il t'aime. Ton nom encore? Christian et Christiane et Eric et Sylvain et Gilles. Quatre personnes précieuses aux yeux de Dieu. Et on va prier cette prière ce matin. Et j'aimerais que toute la congrégation prie avec nous. Faisons cette prière. Père Céleste, au nom de Jésus, je viens à toi. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon sauveur et mon maître. Je crois de tout mon cœur que tu es ressuscité des morts, que tu vis éternellement. Merci Seigneur, que je vais vivre pour toi tous les jours de ma vie. Mes péchés sont pardonnés. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur pour ton sang qui m'a lavé, qui m'a purifié. Je suis pur, net. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour ces hommes ce matin?